C'était il y a 15 ans, je suis jeune consultant, je vais arriver à mon premier poste de manager, donc je manage une cellule de recherche et je recrute mon premier chargé de recherche. C'est mon premier recrutement en tant que manager et donc je recrute pour moi. Et autant il m'est facile de recruter pour les autres, autant recruter pour soi, il y a toujours cette dimension effectivement un peu anxiogène. C'est quelqu'un avec qui on va passer du temps, beaucoup de temps. Et je décide de faire une jolie liste avec des questions et puis finalement une grille de lecture et d'évaluation comme il faut. Donc je vais déjà présélectionner, on va dire, les profils et donc je reçois les candidats. Je déroule mes grilles, etc. Et je vais retenir en définitive la personne qui sature mes critères. Et à l'époque, je cherche quelqu'un qui n'ait pas peur de prendre le téléphone, puisque notre métier, c'est de prendre le téléphone. On n'est pas encore sur LinkedIn, l'email n'est pas encore autant répondu que maintenant. Donc, il ne faut pas avoir peur du téléphone. Il faut être capable de comprendre un brief et bien qu'on n'ait pas forcément toujours tous les tenants et aboutissants d'y aller sans cela. Donc, quelque part, il y a une capacité à se projeter dans le brouillard et à y voir clair. Donc, c'est des capacités d'abstraction et puis des capacités voilà, d'hypothèse. Et je me souviens du candidat que j'ai retenu. Donc, je le fais passer en entretien et donc, on ouvre la partie sur la liste, etc. Et sur la partie, on va dire, compétences de ce que je recherche, il sature le cahier des charges. À ceci près que le feeling passe pas vraiment. Alors, c'est quoi le feeling? C'est finalement à la fois alors, cette capacité à être dans l'échange facilement, à partager des choses communes, des valeurs communes sur des centres d'affinité ou autres. Enfin, une équipe, pour qu'il y ait une cohésion d'équipe, à un moment, il faut effectivement qu'il y ait un respect de l'autre et qu'on considère finalement l'autre comme son alter ego, quelque part. On n'y est pas du tout. Je l'aurais croisé dans la vie de tous les jours. Jamais on se serait adressé la parole. Mais malgré tout, il y avait sur le plan professionnel et les compétences qui m'intéressaient des vraies qualités. Et je me dis, bon, c'est pas grave, mets de côté finalement ce ressenti qui au départ, je le minimise. Je me dis, c'est pas grave, on va apprendre à se connaître, c'est du ressenti. Après tout, au bout d'une heure, tu peux faire une erreur. Donc, je me dis, bon, ok, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les compétences soient là et que je vais me fonder essentiellement sur les compétences parce que c'est ce qui est important. La suite de l'histoire, donc il a fait son stage pendant 6 mois, ça a été extrêmement difficile en termes de collaboration. C'est-à-dire que autant quand il était dans ses missions, c'était parfait, je lui donnais un travail à faire, il s'est réalisé avec brio, donc ça a été un très bon pro de ce point de vue-là. Autant tous les midis, quand il s'agissait de déjeuner ensemble, c'était assez compliqué, la discussion était très compliquée. C'est quelqu'un qui a continué dans le recrutement, je dirais, donc depuis maintenant plus de 15 ans, qui est un brillant consultant, mais c'est vrai qu'on n'avait rien en commun. Il est reparti en université, il était là pour 6 mois. Maintenant, s'il avait été en stage de fin d'études complet, est-ce que je l'aurais recruté? La réponse est non.
En tant que recruteur, on développe avec l'expérience certains automatismes et réflexes qui nous facilitent la vie et nous permettent d'être plus efficients. Et c'est d'ailleurs la marque de fabrique d'un bon recruteur que d'être organisé et d'avoir mis en place des processus clairs, structurés et robustes qui ont fait leur preuve afin de traiter avec le plus d'équité et d'objectivité possible les candidats. Mais attention, ces automatismes peuvent prendre le dessus et nous transformer en robots dépourvus d'émotions. C'est un piège courant appelé biais de l'entomologiste. Il consiste à décider de recruter tel ou tel candidat uniquement à partir de faits et d'éléments techniques et en faisant totalement abstraction de ses soft skills et de nos propres émotions. Dans cet épisode de notre série de podcast Histoire de recruteur, proposée par WeSuggest, plateforme d'évaluation des soft skills en recrutement, nous avons choisi de braquer les projecteurs sur ce biais de l'entomologiste afin d'identifier les dérives éventuelles lorsqu'on donne trop d'importance à des données au détriment de l'humain. Pour aborder cette thématique, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui, derrière notre micro, Pierre-André Fortin, recruteur full stack. Je suis Marie-Sophie Zambeau, éditorialiste RH. C'est parti! Bonjour Pierre-André, je suis ravie de t'accueillir derrière notre micro. J'ai de mon côté la chance d'avoir déjà pu échanger avec toi à plusieurs reprises, mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, s'il en reste, est-ce que tu pourrais te présenter à nous en quelques mots?
Bonjour Marie-Sophie. Alors, je suis Pierre-André Fortin. Ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que je suis dans le conseil en recrutement, essentiellement en agence. J'accompagne mes clients dans le sujet du recrutement, que ce soit effectivement en recrutant ou en formant des recruteurs au recrutement et plus particulièrement à l'approche directe.
Aujourd'hui, on est là ensemble pour parler tout particulièrement du biais de l'entomologiste. Alors entre nous, voilà, parmi les biais, c'est pas forcément le biais le plus connu. Est-ce que tu pourrais nous en donner ta propre définition, s'il te plaît?
Le biais de l'entomologiste, j'aurais une définition à 2 étages finalement. Le premier qui serait effectivement celui de recruter sur uniquement la compétence et la compétence technique. Je m'interdis de quelque part d'aller ailleurs que finalement sur la saturation d'un cahier des charges qui serait finalement de l'ordre du technique. Et donc je m'agrée de compétences et je m'y tiens. Et puis si on va un peu plus loin aussi, et c'est finalement le deuxième étage de la fusée, c'est aussi de la part du recruteur la peur quelque part de s'écouter et de se laisser embarquer. Certains appelleront ça l'intuition, mais en tout cas, cette petite voix qui nous dit « Tiens, creuse peut-être là, même si ce n'est pas dans ton cahier des charges, il y a peut-être quelque chose. » Et c'est ce refus de s'écouter soi. Et donc, c'est aussi une défiance, quelque part, alors de ses biais, bien sûr, mais de soi.
Alors, en fait, c'est parce qu'on veut se prémunir au maximum des biais cognitifs qu'on va tomber dans le piège d'un autre biais
Exactement.
Cognitif, qui est le biais de l'entomologie.
C'est l'arroseur arrosé. C'est effroyable.
Ok. Tu as à partager avec nous une anecdote en lien forcément avec ce biais de l'entomologiste. Donc, tu as délibérément choisi de mettre de côté tes émotions, de te mettre à distance pour pouvoir accéder à plus d'équité ou d'objectivité.
Exactement.
D'accord.
Non, parce qu'en fait, effectivement, c'est toute la prise de conscience du biais, finalement, et de se dire, on est tous plein de biais cognitifs, c'est logique, hein, c'est une économie du cerveau, finalement, pour fonctionner. Et donc, on met des stratégies de contournement, d'évitement, pour éviter de tomber dans son biais, mais finalement, il faut admettre, là, très humblement, qu'en évitant certains, on tombe dans d'autres. Parce que je le vois aussi beaucoup chez mes clients, le biais de l'entomologiste, particulièrement sur les recrutements techniques, où il y a une expertise technique forte, hein, que ce soit en IT ou en mécanique, ou peu importe. Cette notion, finalement, qu'on recrute la personne pour une tâche, et quel que soit le niveau de poste. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui va être finalement cadre dirigeant, mais qu'on recrute pour la tâche, donc c'est pas grave dans l'absolu, qu'on n'évalue pas ses qualités, on va dire, communicationnelles, d'interaction, etc.
Et pour toi, justement, quels sont les risques de tomber dans l'excès d'automatisation, de KPI, de processus ultra élaborés et structurés, aussi bien côté recruteur que côté candidat ?
Le travers, c'est que, bon, d'une part, on finit par recruter comme une machine, on est sur de l'humain, on va appeler ça soft skill pour faire plus rapide et plus court. Effectivement, la dimension pure rationnelle ne permet pas véritablement d'évaluer. Il y a une mécanisation et malgré tout, en fait, si on regarde une équipe et un fonctionnement d'une équipe, une meilleure performance s'obtient par la cohésion finalement de cette équipe.
Quelle place tu accordes aux émotions et au feeling en fait dans un processus de recrutement ?
Alors, c'est le moins possible en bout de ligne. Cette intuition, elle peut être importante et elle peut être utile, mais en aucun cas, elle n'est, on va dire, la conclusion. Donc en fait, le feeling, on peut avoir du feeling sur un entretien, mais j'ai envie de dire que là, le mot d'ordre, c'est on creuse. On va essayer d'analyser, d'essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que, au contraire, voilà, je suis très enthousiaste par un candidat, et voir si effectivement, on n'est pas sur d'autres biais, hein, de l'entre-soi, de c'est le premier que je vois et qui répond bien à mon cahier des charges. Voilà, c'est aller creuser systématiquement et questionner finalement ce feeling et cette intuition que l'on peut avoir. Alors, c'est sûr que nous, dans notre cas, en tant que recruteur, on va effectivement collecter ces informations et puis à un moment, on prend une décision. Est-ce que la personne poursuit le processus ou pas ? On est rarement en position où on est le décisionnaire final. Le décisionnaire, le hiring manager, finalement, c'est lui qui prend la décision de recruter. Moi, mon travail, c'est à un moment, effectivement, comme à l'instruction, de dire voilà ce que j'ai noté. Et au regard de notre cahier des charges, etc., j'ai quelqu'un, effectivement, qui me semble intéressant et pertinent pour telle raison. Attention à ces éléments-là, prends-les en considération dans ta décision finale.
À titre personnel, comment tu t'organises dans ton quotidien de recruteur pour essayer, je dis bien, de réduire l'impact justement de ce biais de l'entomologiste ? Tu as des garde-fous qui te sont propres pour pas tomber dans ce biais ?
Est-ce que j'ai des garde-fous ?
Tu l'as vécu ?
Comme je l'ai vécu, j'ai donc un devoir, on va dire, de ne pas reproduire la même erreur. Effectivement, on se dit, bon, ok, qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on fait bien ? Qu'est-ce qu'on écarte ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Est-ce qu'il y a une botte secrète, une sauce secrète ? Non, je dirais qu'il y a justement s'écouter et en revanche, analyser systématiquement.
Tu as dit s'écouter ? Et j'avais bien aimé une formule que tu avais dite, à savoir écouter ce qui est dit pour ce que c'est.
Pour ce qui est dit, oui.
Ouais, pour ce qui est dit.
C'est effectivement ce principe d'écoute active. C'est-à-dire que je vais écouter activement ce qui est dit pour ce que c'est, sans chercher à interpréter, en fait. J'essaie juste de comprendre.
Ça permet d'atténuer justement ce biais.
Voilà, le but, c'est d'atténuer, de ne pas commencer à projeter je ne sais quoi ou autre. Je dirais que peut-être le meilleur moyen de se garantir de cela, en tout cas, du biais de l'entomologiste ou d'autres biais, finalement, au moment, c'est, je pense à dire qu'un entretien, on doit comprendre ce que la personne nous raconte. Donc, si on trouve qu'il y a une incohérence, s'il y a une dissonance, bah, allez chercher pourquoi. Systématiquement, donc, c'est vrai que finalement, on est un peu un enfant de 3 ans d'entretien. C'est pourquoi, j'ai pas compris, vous voulez reformuler. On est en espèce de posture, de prise de posture, et il faut pas qu'on montre qu'on comprend pas forcément ce que nous raconte la personne, mais on peut ne pas comprendre parce que c'est très technique. Et donc là, effectivement, bah, demander à ce qu'on vulgarise. Et moi, j'ai pas de problème. Alors, je suis un vieux recruteur, donc c'est facile de dire, bah, écoutez, expliquez ça à moi comme à quelqu'un de 10 ans. J'ai un peu grandi. Pendant très longtemps, j'ai dit 3 ans, mais bon, 3 ans, c'est
moi,
vraiment difficile.
Moi, j'ai 17 ans.
Mais voilà, mais 10 ans, oui. 10 ans, voilà, ça fait un CM1, CM2, c'est pas mal. Expliquez-moi comme si j'avais 10 ans.
Donc, ne pas hésiter à creuser, à approfondir,
à
poser des questions, même si a priori, elles peuvent sembler bébête ou idiote, mais vraiment pour essayer de comprendre au maximum la personne qu'on a en face de soi.
On part du principe que la personne qu'on reçoit, on a nous-mêmes travaillé un peu sur la compréhension du poste. Sans tout savoir, on a quand même compris les tenants et les aboutissants. Si je reçois demain un DAF, je vais, moi, lui poser des questions sur son métier, sur, OK, mais c'est quoi la différence entre du social, du fiscal? Enfin, par exemple, c'est très basique hein, et très bête, mais de pas hésiter à rentrer, effectivement, puisqu'il emploie par moment du vocabulaire technique, de rentrer, lui dire, expliquez-moi ça. Alors, je recrute des statisticiens depuis très longtemps, ça fait une vingtaine d'années, ce qu'on appelle aujourd'hui des data scientists, spécialisés en marketing, et ça fait donc 20 ans que je leur demande systématiquement en entretien, expliquez-moi ce qu'est une régression logistique. J'ai toujours pas compris. Non. c'est pas l'objet. Moi, ce qui m'intéresse derrière, une fois de plus, je suis pas là pour juger de la technique. Moi, ce qui m'intéresse quand je recrute ce genre de personnes, c'est des gens qui vont interagir avec une direction générale, avec une direction marketing, c'est leur capacité à vulgariser et à restituer finalement un problème de mathématiques, à le vulgariser à un enfant de 10 ans. On n'est pas là pour être sachant, on est là pour évaluer quelque chose. Et entre autres, les capacités, souvent, on va dire, sur la partie RH, puisqu'on incarne quand même la partie RH d'un recrutement, à aller chercher plutôt les capacités, effectivement, des personnes à interagir, à communiquer, bref. Et donc, c'est des capacités, effectivement, à vulgariser, à expliquer à des personnes qui ne sont pas du sérail, donc du service, si on est la finance, si on est, leur expliquer les choses simplement. Et donc, de relancer pour ça, de questionner, ne pas avoir peur, finalement, de ne pas savoir, d'aller chercher les informations pour comprendre.
Et si, voilà, dans le cadre de cet échange, cet entretien avec le candidat, toi, tu as ta grille de compétences, des choses précises que tu as en tête, que tu veux aller creuser, évaluer, si tu as un signal faible, tu perçois quelque chose sur quelque chose qui pourtant ne fait pas partie de cette grille, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu préconises?
Justement, les signaux faibles font partie de ces choses-là. Je dirais que c'est un devoir de les creuser, finalement. Alors, on peut pas toujours tout creuser, parce qu'en une heure, on n'a pas forcément le temps de tout faire. Mais je dirais que c'est des faisceaux, finalement, de signaux faibles. Un signal faible sur l'entretien, c'est pas suffisant, mais c'est rarement un, c'est plusieurs. Là, à ce moment-là, il faut aller creuser. Et quitte, en tout cas, à dévier de sa liste, justement, de ne pas être l'entomologiste, mais justement d'être un bon praticien qui, à un moment, dit là, il y a quelque chose qui dissonne. Certes, je n'étais pas censé l'évaluer, mais si, on va quand même l'évaluer. Si on veut une photographie complète de la personne, à un moment, il faut aussi s'autoriser de déroger à cela.
Je pense que ça peut être un piège, tout particulièrement, je dirais, pour un recruteur junior, que de vouloir bien faire et de se dire « Ah là là, attention, j'ai ma grille, j'ai mes compétences, j'ai ma liste de questions préétablie, et puis j'en sors pas parce que sinon je risque de tomber dans la subjectivité, d'avoir des traitements différenciés suivant les candidats, et ça, c'est pas bon. »
Alors, c'est assez amusant parce que finalement, il y a à la fois un discours en ce moment qui est très important sur l'entretien structuré, qui demande effectivement d'avoir une scorecard, donc une grille d'évaluation que l'on va suivre, etc., et qui est importante. Elle a vraiment son sens. Et à la fois, justement, de vouloir effectivement d'aller sur une espèce d'objectivité absolue. Il faut quand même pas oublier qu'un entretien, c'est la rencontre de deux subjectivités. Et donc, à un moment, il faut aussi l'admettre. Et que donc, oui, forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne peut pas aller avec tout le monde. Il y a un moment aussi, un entretien, c'est un moment où les deux personnes, donc la demande de compétences et l'offre de compétences, se choisissent. Les individus choisissent. Donc, alors, on va dire, le problème, c'est quand on est recruteur, une fois de plus, nous ne sommes pas décisionnaires finaux. Nous sommes détenteurs, effectivement, de l'autorité de l'entreprise, quelque part, et c'est le manager qui décide en bout de ligne, c'est vrai. Pour autant, c'est le fameux culture fit, finalement, c'est ça. C'est est-ce que ça correspond à la dimension culturelle de l'entreprise?
Selon toi, est-ce que l'IA, c'est une arme efficace pour réduire l'impact de ce biais et plus largement des biais cognitifs dans les prises de décision en recrutement?
Sur l'IA, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas tout mélanger. Est-ce qu'on a besoin d'IA pour l'évaluation? Je ne suis pas sûr, en fait. Une fois de plus, c'est remettre, on va dire, nos choix au choix d'une machine. Je suis pas sûr que ce soit très pertinent, en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si on prend ChatGPT, puisqu'on en parle beaucoup depuis quelques semaines,
que moi.
Non, mais ça reste un générateur, on va dire, de langage, ni plus ni moins. Est-ce que j'en remets l'évaluation là-dessus? Oui, pour aller détecter des mots-clés. Bon, d'accord, très bien. Mais après, quoi. Amazon en a fait les frais voilà. Il y a quelques années. Hein, donc, bon, donc finalement...
Ils ont stoppé, parce que c'est discriminer les femmes.
C'est ça. On avait une IA qui recrutait et qui faisait du matching automatique. Bon, on a arrêté parce qu'effectivement, elle ne faisait que reproduire des biais et entre autres, une discrimination sur le sexe. C'est pas encore prêt.
Pour finir, quel est ton meilleur conseil pour les personnes qui nous écoutent pour limiter l'impact de ce fameux biais de l'entomologiste?
Retenir qu'un seul conseil. Une fois de plus, je vais revenir là-dessus. Le but, c'est de communiquer. Communiquer, c'est mettre en commun, je dirais, un dialogue, finalement. Le fait d'être trop enfermé dans sa liste, sa grille, on l'a tous vécu. Moi, je l'ai vécu en tant que candidat. C'est finalement d'avoir quelqu'un en face de moi qui est en train de remplir une grille. C'est assez pénible, en fait. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien d'avoir sa grille en tête et il faut l'avoir. Maintenant, elle doit être en filigrane, finalement. Et derrière, on dit que si on a un bon entretien, c'est une bonne réunion, en définitive. Bah, c'est ça, c'est mener votre entretien comme une bonne réunion. Et laissez-vous, effectivement, cette capacité parfois d'improviser un peu.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Pierre-André. Ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir dans cet épisode du jour.
Merci à toi, Marie-Sophie. C'était un vrai plaisir d'être avec vous.
Se focaliser uniquement sur les compétences techniques, mettre de côté ses émotions, voilà qui peut être tentant pour se débarrasser au maximum de ses biais. Malheureusement, cela s'avère contre-productif et revient à tomber dans le piège du biais de l'entomologiste. En effet, et comme nous l'a si bien expliqué Pierre-André, si l'entretien est un moment où le « j'aime, j'aime pas » n'a pas sa place, il est cependant crucial de garder en tête que le recrutement reste la rencontre de deux subjectivités et un métier éminemment humain. Il est donc essentiel de ne pas rester figé sur sa grille de compétences et sa liste de questions préétablies, mais d'oser rebondir, faire preuve d'esprit critique, poser des questions, même si celles-ci nous semblent idiotes, pour creuser et comprendre au mieux le candidat que l'on a en face de nous. Ses compétences, certes, mais également le fil conducteur de son parcours et ce qui le motive. Bref, un juste dosage entre collecte froide de données et émotion. Vous venez d'écouter Histoire de recruteur, le jour où j'ai recruté comme un robot. Sachez que vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Spotify, Deezer, Ocha, Apple Podcasts. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des étoiles, et à en parler autour de vous.